Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le très attendu Conseil de défense consacré à la lutte contre le Covid. Pour savoir comment nous allons vivre dans les semaines qui viennent, le gouvernement devrait annoncer des mesures plus strictes alors que les chiffres de l'épidémie ne cessent d'augmenter. On voit ça avec vous, Agnès, après les autres titres.
Les Gilets jaunes tentent un retour avec des appels à manifester demain. Un nouveau coup dur pour les habitants de Beyrouth avec l'incendie d'un entrepôt où étaient stockés des vivres. Quand des élus, les Républicains, demandent un débat sur la légalisation du cannabis. Et puis un vainqueur entouré d'une femme et d'un homme, c'est le nouveau podium du Tour de France.
Les invités, les rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50, le débat éco du vendredi avec l'économiste Thomas Piketty et Dominique Seux. Une question ce matin, où placer le curseur entre économie et santé des Français en cette rentrée? À 8h20, le grand entretien de la matinale. Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, sera avec nous pour parler du premier roman qu'elle publie, Grand Ballon, aux éditions Plomb. Vous pourrez évidemment dialoguer avec elle au 01 45 24 7000.
France Inter.
Être réaliste sans céder à la panique, ce sont les mots du chef de l'État qui va donc présider en fin de matinée un conseil de défense consacré à la lutte contre le Covid. Près de 10 000 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures, c'est un record. Et pour la première fois depuis le mois de juin, le nombre de patients en réanimation passe la barre des 600. Une situation largement évoquée au congrès des infectiologues qui se tient en ce moment à Poitiers. Véronique Julia.
Preuve que les chiffres se dégradent, les infectiologues marseillais ont annulé leur venue au congrès. Et des Parisiens ont réduit leur visite à quelques heures au lieu de rester les 3 jours pour ne pas déserter leur service. Pierre Tadevin préside la Société de pathologie infectieuse de langue française qui organise le congrès.
C'est pas vraiment le nombre de patients qui actuellement bloquent les médecins à l'hôpital, mais c'est plutôt quand ça augmente un peu rapidement, il faut réorganiser, peut-être prévoir d'ouvrir des unités. Donc certains de nos collègues du coup sont restés sur place.
Car les chiffres n'ont encore rien de comparable au printemps dernier. En termes d'hospitalisation, on n'atteint même pas 10% de ce qu'on a pu vivre à l'époque. À l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, le chef du service de maladies infectieuses, Olivier Bouchot, a 10 lits Covid occupés en ce moment contre 150 en avril dernier. Grâce aux mesures barrières, dit-il, ça va remonter, mais la pente sera plus douce. En revanche, il faut s'attendre à ce que ça dure.
On est à peu près tous convaincus qu'on est parti au moins jusqu'au printemps prochain et peut-être même encore bien plus.
Mais si ça dure, on ne pourra pas, comme en avril, faire du tout Covid, préviennent les médecins. Plus question cette fois de mettre de côté les autres pathologies. Il faut continuer à les soigner, idem pour les règles de vie. Comme ça va durer, il faut que la vie continue, estime France Roblot, infectiologue au CHU de Poitiers.
Il faut qu'on vive avec. Et de façon générale, toutes les décisions qui vont être prises, il faut que ce soit simple pour que les gens y adhèrent.
La bonne nouvelle, c'est quand même, et tout le monde le dit, qu'on maîtrise beaucoup mieux aujourd'hui la prise en charge de la maladie. Des progrès qui devraient limiter la mortalité de cette seconde vague.
Alors, quelles seront les mesures annoncées à l'issue du Conseil de défense? Une possible priorisation des tests pour éviter d'interminables files d'attente devant les laboratoires? Une fermeture anticipée des bars et des restaurants, des rassemblements limités à 6 ou 8 personnes. Ce qui semble acté, c'est l'abaissement de la durée d'isolement de 14 à 7 jours, une décision qui soulagerait les entreprises. Reportage de Claire Chaudière.
Dans cette grande entreprise qui fabrique et vend des spiritueux, chaque semaine apporte son lot de petites situations de crise. Un cas positif à la fin de l'été, isolé, et depuis plusieurs cas contacts.
Marc-Henri Bernard, DRH Group de Rémy Cointreau. Nous avons eu la semaine dernière notamment un cas d'une alternante qui a fait un pot de départ avec de l'entreprise. Cette personne-là a contacté l'entreprise pour expliquer qu'elle avait des symptômes qui ressemblaient très très fortement au Covid-19, notamment la perte de l'odorat.
C'est donc télétravail aujourd'hui pour les collègues présents au pot de départ avec potentiellement, en perspective selon les tests, un isolement jusqu'ici de 14 jours. Et sur les lignes de production, sous Pierre-Patrick Marchand, le directeur des opérations, 2 semaines.
C'est très long. Ouais, c'est très long, surtout qu'aujourd'hui on n'en a pas beaucoup, mais si on imaginait que il devait y avoir un peu plus, on pourrait être conduit à suspendre la fabrication, ce serait très problématique.
Passer à 7 jours serait donc une excellente nouvelle pour ses dirigeants. Approbation d'Hélène, représentante du personnel, mêlée tout de même d'une pointe d'interrogation.
S'ils sont sûrs de leur coût, les médecins, je pars du principe, il faut leur faire confiance. Mais il ne faudrait pas revenir dans un mois nous dire ben, on s'est trompé, il faut repartir sur 14 jours. Il faut qu'on avance.
Et avancer passera également, souligne manager et salarié, par plus de rapidité dans l'obtention des résultats des tests.
Et en ce qui concerne le télétravail, Le MEDEF présente aujourd'hui au syndicat un projet d'accord pour définir les droits et devoirs de chacun. En attendant les nouvelles directives du gouvernement, à Nice, Christian Estrosi a décidé de suspendre les visites des familles dans les 4 EHPAD de la ville. À Nantes, le port du masque sera obligatoire à partir de demain dans toute la ville et non plus dans certains secteurs. Et puis Sciences Po Reims ferme ses portes pour 8 jours après la découverte de 23 cas positifs parmi les étudiants. Le retour des gilets jaunes à présent, des appels à manifester demain sont en effet lancés via Facebook. Certains espèrent même réoccuper les ronds-points, comme au début du mouvement en novembre 2018. Mais les autorités sont en alerte. Les manifestations d'ores et déjà interdites à Paris, où le ministre de l'Intérieur doit justement dévoiler les grandes lignes du futur schéma de maintien de l'ordre. Emmanuel Leclerc.
La sortie sur les réseaux sociaux de Jérôme Rodriguez hier matin, l'une des figures du mouvement des gilets jaunes, traitant les policiers actuels de nazis, a sans doute donné le ton des manifestations à venir de ce week-end. Des menaces prises en tout cas très au sérieux par Didier Lallemand, le préfet de police de Paris. 3 demandes de défilé ont été refusées avec à nouveau les secteurs des Champs-Élysées, du palais présidentiel et de l'Assemblée nationale interdits au risque de finir dans un commissariat de la capitale en garde à vue. Selon nos informations, le préfet Lallemand a réclamé des effectifs de CRS équivalents aux plus fortes mobilisations de l'année dernière. Les gendarmes se préparent également à sortir leurs escadrons dans certaines régions en fonction des derniers rapports des services de renseignement intérieur. À Mulhouse, par exemple, où des gendarmes ont arrêté cette semaine les auteurs présumés de la destruction de 9 pylônes relais de téléphonie mobile dans le Haut-Rhin. 13 suspects, tous membres d'un groupe de gilets jaunes de la région qui ont été mis en examen.
France Inter, il est 7h07, une nouvelle journée de cauchemar, Agnès, pour les habitants de Beyrouth.
5 semaines après l'explosion terrible dans le port, un gigantesque incendie s'est déclaré au même endroit hier, provoquant un vent de panique, mais heureusement pas de victimes. Ce sont des entrepôts où étaient stockés des milliers de rations alimentaires de la Croix-Rouge qui sont partis en fumée. Un désastre dans une ville où des milliers d'habitants n'ont plus rien à manger. Reportage du correspondant de France Inter au Liban, Aurélien Colli.
Ils s'appellent Michel et Tina, ils sont cuisiniers professionnels, mais au chômage car leurs restaurants ont été ravagés. Alors tous les jours, ils cuisinent pour leurs compatriotes.
On cuisine 150 plats par jour. On reçoit des donations et en fonction de ce qu'on a, on travaille au jour le jour.
Aujourd'hui, c'est ragoût d'aubergine et riz pour le quartier dévasté de la quarantaine, l'un des plus pauvres de la capitale.
On présente ça dans des boîtes biodégradables avec une petite signature. C'est ou un cœur ou un smiley face qui amène un petit sourire sur les visages.
Le camion des cuistots humanitaires n'est pas encore garé, que déjà des dizaines d'habitants l'encerclent. Toutes les ONG, toutes ces initiatives, c'est mieux que notre État qui ne fait rien, lance Aïcha en prenant des repas pour ses 5 enfants. Elle décrit son 2 pièces détruites par l'explosion mais toujours pas réparées et l'absence de ressources pour nourrir sa famille. En quelques minutes, les 150 repas sont distribués et bien sûr ça ne suffit pas pour tout le quartier, alors le ton monte. Les ONG et l'aide, c'est bien, mais personne ne ressent notre douleur. Moi, j'ai 3 enfants qui pleurent tous les soirs et qui font pipi au lit depuis l'explosion, s'agace Maral, pendant qu'à quelques mètres, des pères de famille en viennent aux mains. Vous sentez la tension, les besoins, ils sont sur les nerfs et ça empire de jour en jour, s'inquiète Tina, la cuisinière, en soulignant l'urgence d'apporter plus d'aide à ces populations démunies et traumatisées, en particulier un soutien psychologique. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Pas d'accalmie sur le front des incendies sur la côte ouest des États-Unis. Une centaine de feux restent actifs. Dans l'Oregon, des centaines de milliers de personnes ont reçu l'ordre de quitter leur maison. Et les flammes menacent désormais la ville de Portland, où vit depuis 15 ans Eric John Kaiser, un musicien français que vient de joindre Grégory Phillips.
Tout est très sec parce qu'on n'a pas eu de pluie. Et en fait, il y a des départs d'incendies partout. Portland, c'est un peu comme les Vosges, quoi. C'est rempli de bois partout autour. Et comme tout est complètement sec, ça avance à une vitesse incroyable, quoi. Il y a beaucoup de gens déjà dans la grande banlieue de Portland qui évacuent.
Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez?
Ah, c'est super bizarre. C'est comme être dans un feu de camp, sauf qu'on peut pas sortir du feu de camp, quoi. Donc il y a une énorme fumée grise au-dessus de nos têtes depuis 2 jours. Et puis ce qui est très bizarre aussi, c'est que en fait la température a complètement baissé parce que le soleil peut pas transpercer la couche de fumée. Enfin c'est vraiment, on tousse tout le temps et c'est difficile de respirer, donc faut rester à l'intérieur.
Et ce sont déjà 500 000 personnes qui ont dû quitter leur maison dans l'Oregon. Retour en France avec un sujet sur lequel on n'attendait pas forcément les Républicains, la légalisation du cannabis. Et pourtant, au sein de la droite, une dizaine d'élus, Cécilia Arbonnat, demande un vrai débat.
Malgré l'arsenal répressif le plus strict d'Europe, pourquoi le nombre de consommateurs de cannabis continue d'augmenter chez nous? C'est la question que pose le maire de Reims, Arnaud Robinet.
Demande juste à ce que l'on puisse ouvrir le débat et pourquoi pas expérimenter sur certains territoires ce dispositif de légalisation. De la vente légalisée dans des endroits donnés, pourquoi pas via les buralistes, hein. Encadré bien sûr, hein, il n'est pas question d'inciter à fumer et à consommer du cannabis, mais on voit que les mesures que l'on prend depuis des années pour lutter contre les trafics ne fonctionnent pas.
Un autre élu, Les Républicains, est force de proposition sur la question. Le maire de Châteauroux, Gilles Averous.
Chez LR, on est très minoritaire aujourd'hui, hein, il faut avoir le courage de l'avouer. C'est des sujets qui sont encore assez tabous, pour lesquels il y a une opposition, j'allais dire, dogmatique de certains. Je crois que l'important, c'est vraiment de maîtriser toutes les étapes. De la production agricole jusqu'à la distribution, en passant par le contrôle de la qualité des produits et la prévention de la santé des consommateurs.
Pour Gilles Averous, comme pour Arnaud Robinet, l'amende forfaitaire de 200 euros infligée pour consommation de stupéfiants est une réponse politicienne à court terme.
Le site de vidéos de porno amateur Jackie et Michel, visé par une enquête pour viol et proxénétisme depuis cet été, enquête ouverte après le témoignage de plusieurs actrices qui disent avoir été forcées à tourner certaines scènes. Nous y reviendrons dans le journal de 7h. Enfin, le nouveau visage du podium du Tour de France. Il y a toujours le bouquet de fleurs, mais désormais un homme et une femme entourent le vainqueur de l'étape. Kevin Blondel a rencontré le duo qui remet le maillot vert du meilleur grimpeur.
Perché sur le podium, un cycliste fier, entouré d'une hôtesse, mais aussi d'un hôte désormais. Cet homme, c'est Arnaud, niçois de 35 ans, fan de vélo qui rêve depuis toujours de faire le tour d'une façon ou d'une autre. Il est donc le premier hôte à remettre le maillot vert de meilleur sprinter et vit plutôt bien le regard du public à son égard.
Ça surprend un petit peu parce qu'il y avait finalement peu de monde qui était au courant de ce changement. Mais j'ai pas l'impression que ça choque parce que c'est dans l'air du temps et puis c'était un vieux débat qui traîne depuis trop longtemps. Maintenant c'est fait et finalement ça choque pas plus que ça, quoi.
Ce sont pas des critiques, je dirais.
Fanny, normande de 24 ans, est en binôme avec Arnaud sur le podium.
Et je pense que tout le monde comprendra que les questions de parité sont au cœur des sujets aujourd'hui, donc on fait bien de soulever ce genre de questions.
Anna fait aussi partie des hôtesses. Elle est espagnole, elle travaille également sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui a déjà instauré la parité sur les podiums depuis 3 ans.
Ça marche assez bien, moi je suis d'accord pour la parité. Comme ça aussi on voit un peu mieux le travail des femmes, on ne les voit pas comme un objet et en Espagne ça marche bien.
Et des questions pratiques se sont posées avant ce tour au sein des équipes. Comment l'hôte doit s'habiller? Eh bien c'est une chemise blanche et un pantalon de costume vert comme le maillot. Quant à la façon de saluer le cycliste récompensé, si la situation sanitaire le permet l'année prochaine, ce sera une poignée de main.
Le reportage de Kevin Blondel sur le Tour de France. Les grimpeurs qui pourront s'en donner à cœur joie aujourd'hui. 4000 mètres de dénivelé positif sur 191 km entre Châtel-Guyon et le sommet du Puy-Marie.
Merci Agnès Soubiran.